Ce récit du dialogue entre Jésus et Nicodème, où Jésus explique à Nicodème qu'il faut naître de nouveau, naître d'en haut, d'eau et d'esprit, est évidemment souvent utilisé pour les baptêmes. Mais en fait, je crois que c'est un contresens absolu et que ce texte n'a rien à voir avec les baptêmes, ce qui m'ennuie à chaque fois qu'on me demande de prêcher dessus. Alors, comme je suis débrouillard, je tourne autour du pot, mais je vais vous dire ce que j'en pense, puisque je profite qu'il n'y a pas de baptême aujourd'hui, pour vous dire c'est un contresens absolu. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on baptise un bébé, le bébé que l'on baptise, il ne naît pas de nouveau. Je dirais, il ne naît pas une vie nouvelle, ce bébé que l'on baptise. Il n'y a pas un avant et un après. Avant, il n'était pas né, après, il est. Avant, il n'était pas spirituel, après, il le serait. Ce baptême ne change rien dans sa vie. Enfin, si, c'est bien pour lui qu'il ait des parents chrétiens, mais le baptême en lui-même n'est pas une nouvelle naissance de ce pauvre petit ange. Le baptême d'un bébé, c'est le signe de la grâce. Quand on baptise un bébé, on dit qu'il est aimé par Dieu, même si le bébé l'ignore, ce qui est souvent le cas s'il est très petit. Ça, c'est sympathique, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire de Nicodème. J'imagine que vous en êtes d'accord. Alors, pour les baptêmes d'adultes, ah oui, là, on peut le dire un peu plus. La nouvelle naissance, celui qui se convertit au Seigneur, oui, là, je veux bien admettre qu'il s'agisse parfois d'une nouvelle vie, c'est-à-dire avant... Il ignorait l'espérance, la foi, et tout à coup, il découvre Jésus-Christ. Et ceux qui font cette expérience expérimentent le fait que c'est comme de renaître à quelque chose de nouveau. Et on a de très nombreux récits de témoignages comme cela, de gens qui se sont convertis et qui racontent qu'avant d'être convertis, ils avaient une vie d'égoïsme, de violence, parfois même de malhonnêteté, du crime ou de la drogue, et que se convertissant à Jésus-Christ, eh bien, tout change dans leur vie et ils naissent à une vie nouvelle. Donc ça arrive effectivement. Et il arrive aussi d'ailleurs que, sans forcément avoir été drogué ou criminel, parce que tous les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas d'anciens criminels, c'est comme ça, eh bien, on peut dire qu'avant d'avoir découvert Jésus-Christ, on a une vie éventuellement triste, désespérée, sans relief, angoissée, et certains comme ça découvrent le Christ et trouvent une espérance, une paix, un accomplissement. Oui, bon, donc ça c'est vrai. C'est vrai, c'est comme ça d'ailleurs que fonctionnent, vous savez, les églises évangéliques, qui voient la conversion à Jésus-Christ comme une rupture radicale dans leur vie. Ils se convertissent au Christ et donc ils naissent à une vie différente, une vie nouvelle. Aux États-Unis, on les appelle les born again, c'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau. En français, on ne sait pas comment les appeler parce que des renés, ça fait pas très drôle. Voilà, je suis René, moi je suis Marcel ou Raymond. Bon, donc on ne les appelle pas les renés, on les appelle les nés de nouveau. Et ça fonctionne très bien pour certains, mais ça me pose quand même plusieurs problèmes, cette histoire, je vais vous dire. Ça me pose quelques problèmes. D'abord parce que tout le monde ne vit pas sa vie en Christ comme une rupture. Tenez, par exemple, moi. Je dis ça pour relativiser l'expérience, pas pour la mettre en avant. Je suis né dans une famille chrétienne. J'ai toujours été plus ou moins chrétien. Je pense que j'ai prié avant de savoir écrire. Ma foi a toujours été là, plus ou moins, parfois plus, parfois moins, ça a évolué, mais j'ai toujours été plus ou moins chrétien. Aujourd'hui, j'ai donné ma vie au Christ. Ça, c'est vrai. Mais quand me suis-je converti? Je suis incapable de le dire. Parce que je suis un peu comme, vous savez, comme Obélix, qui est tombé dans la potion étant petit. Et donc... J'ai toujours été comme ça et quand j'entends ces gens qui disent « ma vie a été transformée par le Christ », je me dis finalement ils ont de la chance. Moi, ma vie n'a jamais été transformée par le Christ, ou elle l'a toujours été, je ne sais pas. Mais en tout cas, je n'ai jamais vécu une expérience comme celui d'une naissance de nouveau, d'une rupture dans ma vie. J'ai juste vécu avec cette foi qui a grandi, évolué, passé parfois par des crises, qui a mûri. Mais je ne peux pas dire quand je me suis converti. Et ça entraîne parfois une incompréhension avec certains de mes frères évangéliques qui me disent « Ah, moi je suis chrétien, c'est formidable, je me suis converti le 9 janvier 1983 à 15h, et toi ?» Alors je dis « Ben moi je ne sais pas. » Et tout à coup je vois dans le regard de ce frère un doute et il se dit « S'il ne s'est jamais converti, s'il ne sait pas quand il s'est converti, est-il vraiment chrétien ?» Et donc, c'est cela qui me gêne, c'est que finalement, je n'arrive pas, moi, à rentrer dans ce texte. Certains y rentrent, tant mieux pour eux, mais moi, je ne peux pas y rentrer. Alors, est-ce que ce texte ne concernerait que ceux qui vivent la foi comme une rupture, comme une conversion brutale et pas les autres ? Ça, je ne peux pas y croire, parce que je pense qu'un texte biblique parle pour tout le monde. Et donc, même moi qui suis chrétien depuis toujours, je dois penser que ce texte parle de moi. Donc cette histoire de nouvelle naissance là pour le baptême, c'est aussi une fausse piste. Voilà, c'est une fausse piste. Il faut trouver autre chose. Et puis il y a un autre problème aussi dans cette lecture habituelle que l'on fait de ce texte. C'est que je crois que c'est faux de penser qu'on se convertisse au Seigneur une fois pour toutes. Est-ce que vraiment, un jour je me suis converti, et puis maintenant c'est fait. Voilà, je suis chrétien, je suis bon, je suis gentil, tout va bien. Bien sûr que non. On a toujours besoin de se convertir. Donc moi, je ne crois même pas qu'il faille présenter comme modèle possible l'idée d'une conversion datée dans sa vie, et à partir de laquelle on serait déjà converti, ce qui partagerait le monde en deux catégories, ceux qui se sont convertis et ceux qui ne l'ont pas fait. Donc il y aurait les bons et les méchants, les chrétiens et pas les autres, ceux qui ont la foi, ceux qui n'ont pas la foi, ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui vivent comme des bêtes. Je ne pense pas qu'on puisse couper l'humanité en deux comme ça. Je crois au contraire que la conversion dont parle Nicodème, ce n'est pas un acte passé. Ce n'est pas pour dire « Ah oui, je me souviens, c'était vraiment formidable, quand j'ai expérimenté Jésus-Christ, c'était extraordinaire. » Les textes bibliques sont là pour nous inviter à vivre quelque chose. Et donc cette conversion, elle est toujours à faire. Nous devons toujours nous convertir au Christ, parce qu'il y a toujours dans notre vie quelque chose qui ne l'est pas. Et il y a toujours une vie nouvelle à découvrir, et il y a toujours un ancien homme en nous à enterrer. Il y a toujours des choses à faire avancer, et on peut toujours progresser. Oui, je crois que je suis à la fois converti et toujours à convertir. Et donc ma conversion n'est ni devant, n'est ni un passé que je connaîtrai ou pas, mais elle est quelque chose de quotidien dans ma vie, et tous les jours je dois me convertir, une fois, 10 fois, 100 fois, à chaque instant, à chaque minute même, pourrais-je dire. Et donc je suis sans arrêt invité à renaître, à me renouveler, à être un être neuf, à partir de tout ce qui m'arrive. Et il m'en arrive tous les jours, des choses qui me touchent, qui me blessent ou qui me tuent. Et tous les jours, je dois revivre avec cela, je dois renaître de nouveau. Et tous les jours, j'ai tendance à oublier le Christ, le Seigneur, l'amour du prochain, la grâce. Et tous les jours, je dois redécouvrir cela et être sans arrêt un être neuf qui revient à la vie comme un nouveau-né dans le Seigneur. Eh bien oui, effectivement, je crois que cette nouvelle naissance, elle est toujours à refaire. Et donc là encore, cette idée de penser que cette histoire de Nicodème parlerait des baptêmes d'adultes, c'est faux. Voilà, c'est faux aussi. Bon alors, je vais vous donner ma solution. Ma solution, plutôt ce que je crois moi, c'est la chose suivante. C'est que on est tous de chair et de sang comme les mammifères. Ça, c'est vrai. Et autre vérité, c'est que pour être pleinement humain, il faut que dans notre vie, il y ait une autre dimension qui apparaisse que celle du mammifère. Bon, on est tous des singes, un peu améliorés, avec quelques grammes de cerveau en plus, parfait. Mais si vous voulez être autre chose qu'un singe, il y a quelque chose d'autre que cet aspect purement mammifère, purement animal de l'être humain. Et c'est cela qu'il faut découvrir. L'être humain, pour être humain, doit naître à une autre dimension qui fait qu'il est humain. Alors comment on va appeler cette dimension de l'humain, ce qui est dans l'homme humain qui n'est pas d'ordre l'animal? Alors on peut l'appeler celle de l'esprit, celle du spirituel. Bon, appelez-la comme vous voulez, je ne sais pas. Mettons que c'est ce qui fait que vous n'êtes pas qu'une bête, voilà. Alors moi je l'appelle spirituel parce que ça ne me dérange pas. Si pour vous le spirituel ne veut pas dire grand-chose, appelez-la la dimension de l'amour, de l'esprit, de l'art, du don de soi peut-être, du pardon, du service, de la gratuité, de l'humilité, de la douceur. Tout cela, ce sont les valeurs fondamentales d'une humanité accomplie. Et finalement, c'est peut-être pas idiot de lire ce texte pour les baptêmes d'enfants. Parce que c'est ça qu'on veut dire quand on baptise un bébé. C'est que ce petit bébé, eh bien je vous le dis à vous parents, ce n'est pas qu'un tube digestif, voilà. Oui, et quand les parents baptisent un enfant, même tout petit, a priori il ne prie pas beaucoup, il n'est pas très généreux, enfin, on n'en sait rien, mais je dis, c'est les parents qui disent, cet enfant n'est pas qu'un petit animal, mais il a une dimension spirituelle, il a une autre dimension qui est celle de l'esprit. Et cette dimension-là, nous, parents, nous voulons la prendre en considération pour la nourrir, pour l'éduquer et pour l'orienter. Parce que s'occuper matériellement d'un enfant, c'est simple, enfin simple. Il faut lui donner à manger, il faut lui le faire dormir, le soigner, qu'il ne tombe pas malade et tout ça. Mais ça ne suffit pas pour faire un être humain. Et donc les parents qui baptisent un enfant disent oui, il faut que cet enfant ait une autre dimension, et cette dimension, eh bien, c'est celle d'une dimension spirituelle, invisible de l'humanité, et pour ça il faut aussi en prendre soin, donc il faut la nourrir. Et que la meilleure nourriture de cette dimension autre, c'est une parole. C'est une parole, c'est un contenu, c'est une direction, ou alors un amour, une présence. Et dans le baptême d'un enfant, c'est ça que nous disons. Nous disons qu'il est aimé, et qu'on veut l'aimer, et qu'on veut lui transmettre un message, des valeurs, une connaissance de Dieu. Et oui, qu'il y a aussi ce Dieu qui l'aime, qu'il aimera toujours, et qui lui dit dans l'Évangile un message de vie. Alors ça, c'est, je crois, essentiel. Donc oui, après, on parle de nouvelle naissance, mais c'est pour dire qu'il y a cette dimension de l'esprit dans un être humain. Quand elle commence, je n'en sais rien. Et je ne crois pas que la nouvelle naissance commence au moment du baptême de bébé. Elle commence d'une façon indistincte, comme votre propre conscience. Quel jour avez-vous été conscient que vous existiez ? Vous n'en savez rien, moi non plus. Eh bien, la dimension spirituelle, elle est comme ça. Et le baptême ne marque pas le début d'une vie spirituelle, mais c'est de dire, nous croyons qu'il y a une vie spirituelle dans cet enfant et dans tout être. Et je vais vous dire, je crois que cette dimension spirituelle de l'être humain, cette dimension surnaturelle de l'homme, elle est éternelle. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. La vie éternelle, c'est cette dimension de la vie, justement, qui est au-delà du corps et qui demeure éternellement. La vie éternelle, c'est que notre vie n'est pas qu'un animal qui vit, qui meurt, mais il y a quelque chose là-dessus qui est propulsé dans l'éternité. Et tenez, j'ai même une preuve de l'existence de la vie éternelle. Comme toute bonne démonstration, il y a un axiome de base. C'est là où c'est le plus discutable, comme je suis honnête, je vous le dis. L'axiome de base, c'est qu'il existe dans l'être humain une dimension non animale. C'est-à-dire qu'il y a dans le monde même une dimension de l'invisible, de l'immatériel, et qu'il y a dans chacun de nous un être intérieur, un être de la profondeur de l'être, invisible, qui est au-delà de la matière, au-delà de notre corps de mammifère biologique, qui a en nous quelque chose de transcendant. Et cela, c'est tellement au-delà de tout ça que c'est au-delà du fait que l'on soit jeune ou vieux, malade ou en bonne santé, riche ou pauvre. Et c'est ce qui fait aussi que j'aime ma grand-mère, même si elle est en très mauvais état, et si j'avais une voiture dans cet état-là, je la mettrais à la casse. Eh bien non, il y a quelque chose de l'invisible dans un être. Et cette dimension non physique, je vous dirais, elle est de l'ordre de l'esprit, elle est de l'ordre de l'amour. Oui, parce que l'amour, ce n'est pas une denrée physique, hein, ça ne s'achète pas, ça ne se vend pas. Et donc, il y a en nous quelque chose qui n'est pas lié à l'espace. Or, c'est là où la science apparaît. Le temps est lié à l'espace. C'est-à-dire que sans espace, il n'y a pas de temps. Le temps est une dimension de l'espace. Ça, c'est vrai. Vous demanderez à n'importe quel physicien. Donc, s'il y a quelque chose en nous qui n'est pas lié à la matière et à l'espace, cette chose-là n'est pas soumise au temps. Elle échappe au temps. Voilà, c'est comme ça. Et c'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Parce que éternelle, ça ne veut pas dire qui dure très longtemps et c'est long, mais ça veut dire hors du temps. Donc oui, il y a quelque chose en vous et en chacun de nous qui est au-delà du visible, et ce qui est au-delà du visible est éternel. Paul le dit en 1 Corinthiens 4, et il avait raison. Donc ce que l'on sait, c'est que on est, nous tous, comme des animaux, des petits mammifères, et puis sur ce petit mammifère, il y a une dimension spirituelle qui s'agrège, une dimension spirituelle qui grandit, et cette dimension qui, elle, est au-delà du matériel, au-delà du visible, et qui est éternelle. Autrement dit, notre vie, je dirais, elle est un peu comme une fusée lunaire. Vous avez une fusée à plusieurs étages, ou comme un lanceur de satellite. Il y a le lanceur, c'est notre vie physique, c'est notre corps. Et puis, sur ce lanceur, il y a une dimension qui, alors chez l'être humain, grandit progressivement, qui est la dimension spirituelle. Et notre vie, petit à petit, s'élève. Et cette dimension de l'esprit sur notre vie, petit à petit, s'épaissit. Et elle devient de plus en plus grande. Et à un moment donné, la vie physique s'épuise, décline et retombe. Mais la partie spirituelle, elle reste en l'air. Vous savez, comme le lanceur de satellite. Il y a un gros lanceur qui pousse tout ça vers le haut. Et puis quand ça arrive bien en haut, le lanceur y retombe. Mais on s'en fiche, puisque finalement, il ne compte pas tellement. Ce qui compte, c'est le satellite qui, lui, du coup, est projeté dans l'espace et va continuer de tourner éternellement autour de la Terre. Eh bien, l'important, ce n'est pas le lanceur, même s'il peut être très beau, et je suis très content si vous avez un joli corps et une belle vie physique sympathique et en bon état, mais ça n'est pas très grave. L'important, c'est qu'est-ce que notre vie physique porte de non physique. Et Paul le dit bien d'ailleurs, il dit, dans 1 Corinthiens 15, il dit « Semé corps terrestre, on ressuscite corps spirituel ». Et quand Paul dit « ressuscite », ce n'est pas après la mort, hein, c'est ici même, on est de nouveau à cette nouvelle dimension. Et il dit « s'il y a un corps terrestre, il y a aussi un corps spirituel ». Mais le spirituel n'est pas premier, ce qui est premier, c'est le terrestre. Ce qui est spirituel vient ensuite. Et donc c'est bien ça, on est d'abord corps terrestre, et puis le spirituel apparaît, et ce spirituel est éternel. Donc Jésus a raison, il dit à Nicodème « il ne suffit pas d'être né de la chair et du sang, il faut aussi naître d'une autre dimension, qui est celle de l'esprit, et c'est cette dimension spirituelle qui vous amène dans la vie éternelle. » Alors comment on s'y prend pour avoir cette dimension spirituelle? Eh bien, la méthode, elle se trouve dans le texte par un jeu de mots. Un jeu de mots qui est en général annoncé en notes dans les bonnes traductions. C'est que quand Jésus dit il faut naître de nouveau, même que Nico n'y comprend rien, il dit « mais je ne vais pas revenir dans le ventre de ma mère », etc. Mais en fait, il y a un jeu de mots, parce que quand Jésus dit « il faut naître de nouveau », le mot grec qui est utilisé là, « anothen », veut dire « de nouveau » ou « d'en haut ». Et le plus souvent, ça veut dire « d'en haut ». Ça veut dire « il faut naître d'en haut », naître de Dieu. Naître de Dieu, ça veut dire « dans notre vie, il faut arriver à tirer sa vie » spirituel de tout ce qui n'est pas au ras des pâquerettes. Voilà. Donc tout ce qui n'est pas au ras des pâquerettes, ça, c'est bon pour votre vie spirituelle et pour nourrir cette nouvelle naissance indiquée par Jésus à Nicodème. Mais là encore, ce qui me plaît, c'est qu'il faut naître de nouveau. Or, vous-même n'avez rien fait comme effort pour naître. La naissance, c'est quelque chose qui se reçoit. Et là, autre message, c'est que le but, ce n'est pas donc de s'élever pour arriver à accéder au spirituel. Donc finalement, mon image de la fusée lunaire est fausse. Et je crois que c'est pour ça que Jésus ne l'avait pas utilisée, en fait. Parce qu'il ne s'agit pas de s'élever en disant « quand je serai assez haut, je serai spirituel et je pourrai échapper à la mort ». Mais c'est quelque chose qui se reçoit. Voilà. Et donc, pour naître de nouveau, eh bien, il ne faut pas s'élever, mais recevoir d'en haut. S'ouvrir à ce qui est élevé. Accueillir, faire de la place à autre chose que ce qui, dans notre vie, nourrit le ventre ou satisfait le corps. Alors Jésus dit qu'il faut naître d'eau et d'esprit. Alors naître d'eau, oui, enfin il ne s'agit pas forcément du baptême, parce que dans les autres évangiles, ils disent qu'il faut être baptisé d'eau et de feu. Alors moi, si vous aimez les baptêmes par eau, moi je vais vous demander de me montrer comment vous vous baptisez par le feu. Ça va être moins drôle que de recevoir un peu d'eau sur la tête, hein. Donc évidemment, ne prenez pas ces images au pied de la lettre. Que vous ayez reçu de l'eau sur la tête ou pas, ne change rien. Ça, je dis ça pour les amis de l'armée du salut, puisque vous ne pratiquez pas le baptême, c'est ça ? Voilà. Et donc, ce qui est important, c'est ce que ça signifie. Même si on n'a pas reçu d'eau, on peut être né d'eau. Parce que l'eau, vous savez ce que c'est l'eau dans la Bible ? C'est le signe de la grâce. Parce que Jésus dit bien, Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Et quand une source d'eau coule, eh bien le voyageur assoiffé arrive et la source donne son eau au voyageur. Qu'il soit gentil ou que ce soit un criminel en fuite, la source coule. Dieu fait lever son soleil sur tout le monde, il fait pleuvoir autant dans le jardin du juste que du méchant. C'est l'amour de Dieu, il est offert à tous comme une pluie bienfaisante qui est offerte. Et donc l'eau, c'est la grâce. Et voilà de quoi il faut naître, de cette idée absolument incroyable que nous sommes aimés par Dieu, que nous sommes sous la grâce, effectivement, juste ou injuste. Et ce savoir aimer, c'est la chose la plus essentielle au monde. Et donc ce savoir aimer de ses parents, de ses amis, sinon on ne vit pas, et de ce savoir aimer par Dieu aussi. Et ça, il faut s'en nourrir, il faut naître de cet amour donné. Et c'est encore le sens du baptême d'enfant, d'ailleurs. Et puis ensuite, il faut naître de l'esprit. Alors, l'esprit, ça, c'est autre chose. L'esprit, c'est la puissance de vie qui est en Dieu. C'est comme le feu, justement. Et le feu, il est comme l'esprit. C'est la puissance qui fait bouillir une marmite. Le feu, c'est ce qui fait avancer la machine à vapeur. Et ce qui fait avancer aussi vos voitures, hein. Parce qu'il y a à chaque fois une petite étincelle qui fait avancer. Et donc le feu, c'est l'énergie, c'est la puissance de Dieu. Et l'esprit, c'est ça, c'est cette puissance de Dieu, ce souffle qui fait avancer les bateaux à voile, ce souffle même, si vous êtes un adepte des énergies nouvelles, qui fait tourner les éoliennes et qui vous éclaire également. Et donc c'est ça le souffle. Et c'est de dire, il faut naître à la fois de l'eau, c'est-à-dire de l'amour et de la grâce de Dieu, et aussi de cette puissance de Dieu qui nous bouscule et nous transforme. Donc il faut se laisser transformer par Dieu en quelque sorte. Et alors, eh bien, on est de nouveau et d'une autre manière. Mais ça, vous ai-je dit, ce n'est pas à faire une seule fois, c'est à faire tous les jours, parce que tous les jours, nous avons la capacité à ressusciter, à revenir à la vie et à naître de nouveau. Et puis, cela dit, cet esprit, il est, cette puissance de Dieu, et c'est difficile à expliquer également d'où il vient ni où il est. Et c'est comme ça d'ailleurs que conclut Jésus son entretien avec Nicodème. Il dit, tu sais, l'esprit, on ne sait pas ni d'où il vient ni où il va. Donc oui, je ne prétends pas résoudre tout le problème de savoir qui est Dieu, ou d'où viens-je, où cours-je et dans quelle étagère. L'important, c'est que l'esprit, je ne sais ni d'où il vient ni où il va, mais j'entends son bruit. Et donc moi, je vous dis, il y a une puissance de Dieu, c'est vrai, et si on apprend à s'ouvrir à cette puissance de Dieu, eh bien on peut être transformé intérieurement par cet esprit de Dieu qui nous permet de nous mettre en marche, de naître de nouveau, de renaître dans toutes circonstances et de pouvoir grandir ainsi en grandeur, en beauté, en grâce et en sagesse, comme dit l'Écriture. Amen.